Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Gagner du temps, lutter contre l'épidémie et éviter le confinement. La France en alerte, impose de nouvelles restrictions, davantage de contrôles, fermeture des frontières aux pays hors Union européenne. Les aéroports de Paris se préparent à contrôler les départs à partir de minuit. Reportage à Roissy dans un instant. Une nouvelle piste dans la lutte contre la maladie. Gabriel Attal annonce que la recherche sur les traitements à base d'anticorps monoclonaux va s'accélérer. Dans le même temps, en Chine, à Wuhan, les experts de l'OMS poursuivent leur enquête bien compliquée sur l'origine de la pandémie. La police russe interpelle en masse à Moscou et dans plusieurs villes. Les partisans d'Alexei Navalny avaient appelé à une journée de mobilisation. Le Kremlin a fait une démonstration de force. Olga, manifestante à Moscou.
Je suis sortie pour participer à une manifestation pacifique contre la corruption, contre toutes les actions illégales qui sont menées contre Alexei Navalny.
Dans ce journal également, manifestation aujourd'hui à Paris contre la loi bioéthique et la PMA pour toutes. Et puis le festival Sundance, le plus grand rendez-vous du festival du cinéma américain indépendant. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport. Le jour d'après à Marseille, la défaite du PSG 3-2 face à Lorient. Du handball, pas de médaille de bronze pour les Français au championnat du monde. C'est le Danemark qui remporte la compétition. Et puis on s'intéressera à un univers sportif bien particulier, la cascade de glace. On vous dit tout en fin de journal. Notre coup d'œil sur l'agenda et les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. La météo pour demain, de la pluie, de la neige, 26 départements placés en vigilance orange, crue, inondation ou avalanche dans les Landes. La ligne TGV Bordeaux-Hendaye coupée par les inondations. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. Un mot de la circulation très chargée ce soir. Près de 300 km de bouchons en Ile-de-France au plus fort des retours de week-end. Malgré le couvre-feu, la situation sur les routes est en train de s'arranger. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Egon, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi l'homme est un peu pareil que le singe.
Eh bien, réponse à 19h30, Egon, dans les petits bateaux.
France Inter.
La France est donc en alerte pour éviter un confinement. Le variant anglais du virus au centre de toutes les inquiétudes progresse, mais moins vite que ce que l'on pouvait craindre, ce qui, selon le gouvernement, laisse le temps d'observer l'évolution de la maladie. Depuis ce matin, la France impose donc de nouvelles restrictions dans le but d'empêcher les variants de circuler, davantage de contrôles lors du couvre-feu, fermeture des grands centres commerciaux, fermeture des frontières aux voyageurs venant ou à destination des pays hors Union européenne, sauf bien sûr motif impérieux, et test PCR élargi à tous les voyageurs des pays de l'Union européenne. Une exception, les travailleurs frontaliers et les transporteurs routiers ne sont pas concernés. Alors comment se passent les contrôles et leur mise en place? Les aéroports de Paris se préparent. À minuit, ce soir, les contrôles des départs vers les pays extérieurs à l'Union européenne et certains voyageurs cherchent à s'accommoder des nouvelles règles. Vous allez l'entendre. Reportage à Roissy, Margot Karoff.
Sous le tableau d'affichage des départs, on lit l'inquiétude sur les visages, même derrière les masques. Oscar espère pouvoir rentrer au Canada où il travaille.
Tant que j'aurais pas mis les fesses dans l'avion, je serais pas tranquille non plus, quoi.
D'autres voyageurs tentent leur chance, même s'ils ne rentrent pas dans les critères. Caroline a fait le trajet depuis la Corse avec sa copine pour prendre un avion direction le Kenya. Pour elle, c'est le flou total, les consignes ne sont pas claires.
On a voulu se rendre quand même sur place, parce qu'on n'a pas réussi à rejoindre les compagnies. On n'a pas eu d'infos, tout ça, donc on est venu et apparemment ça passe. On a rempli l'attestation.
Mais vous y allez pour quel motif?
Ben, loisir.
Et pour d'autres vacanciers, ceux qui rentrent juste à temps avant la fermeture des frontières, c'est le soulagement. Émilie et Amandine ont réussi à profiter de leur séjour aux Maldives.
On est passé vraiment dans les mailles du filet, quoi. Finalement, ça se passe bien, quoi. Enfin, on est content d'être rentré, puis on est content d'être parti aussi, quoi. Ça fait du bien. C'était, je pense, la bonne semaine, quoi. C'était vraiment la semaine limite, quoi.
Plus question désormais de prendre des vacances à l'étranger. Les seules raisons valables sont le travail, les études ou pour se rendre auprès de proches malades.
Margot Karoff à Roissy, la France. France a enregistré 19 235 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus en 24 heures, soit environ 5 000 de moins que la veille, selon les données publiées aujourd'hui par Santé publique France. Le coronavirus a fait 195 morts supplémentaires dans les hôpitaux et le nombre de personnes hospitalisées en France en raison du virus a augmenté, 331 hospitalisations supplémentaires par rapport à hier. Et dans cette lutte contre la maladie, la France va accélérer son travail de recherche sur les traitements à base d'anticorps monoclonaux. Ce traitement pourrait permettre d'éviter les formes graves de la maladie. Donald Trump, l'ancien président américain, a été l'un des premiers à bénéficier de ce traitement expérimental. Et la semaine dernière, l'Allemagne annonçait avoir commandé 200 000 doses de ce traitement. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Depuis le début, à chaque fois qu'il y a des traitements qui semblent prometteurs, on investit pour regarder si ces traitements effectivement sont confirmés. Et les anticorps monoclonaux en font partie, et donc ce que je vous confirme, il y a une réunion autour du président de la République vendredi sur ce sujet-là, c'est qu'on va développer des protocoles cliniques pour travailler cette piste-là, qui semble s'adresser à des personnes qui sont à risque de faire une forme grave quand elles viennent d'avoir leur diagnostic positif ou qu'elles sont au tout début des symptômes. C'est a priori, d'après ce que disent les recherches scientifiques, pour ce type de patient que ce traitement serait le plus indiqué. J'ai pas là de calendrier d'annonce à faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, on accélère sur notamment ces pistes-là qui semblent les plus prometteuses.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur BFM TV à la mi-journée. Et pendant ce temps, les experts de l'OMS en Chine mènent une enquête bien compliquée sur l'origine de la pandémie. Sous contrôle étroit des autorités chinoises, l'équipe de l'OMS a pu se rendre aujourd'hui au marché de Wuhan, où est apparu le coronavirus il y a un peu plus d'un an. Cette visite, à l'écart de la presse, est ultra sensible pour Pékin, qui est accusé d'avoir tardé à réagir face au premier cas de la maladie. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine, estime que la Chine ne laissera pas les experts de l'OMS faire leur travail.
Ce ne sont pas les experts de l'OMS qui peuvent accéder à la vérité. Ceux qui ont la réponse aujourd'hui, ce sont les scientifiques chinois. Et la question qui est la plus importante, c'est est-ce que les autorités politiques en Chine peuvent laisser les autorités scientifiques faire leur travail et notamment discuter, échanger, mener des recherches avec les experts de l'OMS et plus largement les experts à l'étranger. L'intérêt du pouvoir chinois, c'est de mettre en scène le fait que l'équipe de l'OMS se trouve en Chine et donc écarter les critiques qui laisseraient penser que la Chine n'accepte pas cette enquête ou n'accepte pas tout court le travail des scientifiques. La réalité, elle est évidemment et malheureusement bien différente. Les autorités politiques, depuis des mois, impose aux scientifiques chinois, pour commencer, et indirectement aux scientifiques du monde entier, un carcan dans leurs recherches. L'objectif des autorités chinoises, il est clair, c'est de garder un récit national des éléments de langage qui sont déroulés depuis des mois et de ne surtout pas les remettre en cause.
Antoine Bondaz avec Jules Dequis. Les États-Unis condamnent les tactiques brutales de la Russie contre les manifestants et Moscou dénonce une ingérence grossière de Washington. La police russe a interpellé en masse aujourd'hui les manifestants pro-Navalny. Plus de 4000 arrestations. La police a bloqué le centre de plusieurs villes et quadrillé Moscou. Une véritable démonstration de force face aux manifestants qui avaient appelé à une journée de mobilisation pour exiger la libération d'Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Olga manifester aujourd'hui à Moscou.
Je suis sortie pour participer à une manifestation pacifique contre la corruption, contre toutes les actions illégales qui sont menées contre Alexeï Navalny. Je suis contre ce pouvoir aussi. Vous savez quoi? J'aurais honte d'avoir peur. Ma fille aînée est à côté de moi. Elle me soutient et j'en suis très heureuse. J'espère que pour leur génération, tout aura changé. Ce n'est plus possible.
Olga, manifestante à Moscou avec Claude Brouillot. En France, une manifestation bioéthique et PMA pour toutes avant le retour au Sénat mardi du projet de loi sur la bioéthique. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France durant tout le week-end contre ce texte et sa mesure phare ouvrant la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Aujourd'hui, la manifestation à l'appel du mouvement Marchons-enfants avait lieu à Paris et c'est un rassemblement fourni qui s'est rassemblé devant le ministère de la Santé. Reportage Yann Gallet.
Sous les fenêtres du ministère de la Santé, les manifestants agitent des drapeaux rouges et verts avec cette inscription pour devise « Liberté, égalité, paternité ».
Macron, tellement, on n'en veut pas
Dans la foule, on croise des jeunes coiffés d'un bonnet phrygien, beaucoup de familles aussi qui s'inquiètent de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Anaïs est venue manifester avec ses deux enfants de 11 et 4 ans.
C'est leur droit que je défends, c'est leur avenir.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre pancarte là ?
Nous voulons un monde meilleur, pas le meilleur des mondes. Donc il y a des gens qui valent quelque chose et puis il y a des gens qui vont être utilisés comme objet. Je ne veux pas qu'on exploite les femmes. La marchandisation du corps des femmes, c'est aussi ce qui me révolte. Utiliser l'utérus des femmes avec ou contre leur accord, c'est déjà le cas dans plein de pays en fait.
Le texte prévoit un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes et leurs enfants, inconcevable pour certains élus locaux comme Franck Meyer. C'est le porte-parole du collectif des mères pour l'enfance.
Chaque enfant a droit à connaître son père et sa mère et à être élevé par eux. Pouvoir prévoir des dispositions qui, demain, priveraient sciemment de toute filiation paternelle des citoyens français, ça ne nous paraît absolument pas convenable.
Les opposants à la PMA réclament la suspension du débat parlementaire et la réécriture de ce projet de loi qui pourrait conduire, selon eux, à une dérive vers une civilisation de l'eugénisme.
Reportage à Paris de Yann Gallic. Et à Lyon, des heurts ont éclaté entre pro et anti-PMA. Entre 1000 et 3000 manifestants se sont retrouvés face à face avec 350 contre-manifestants. La police a dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène pour séparer les deux camps. Deux lettres d'adieu ont été retrouvées au domicile à Nancy de Gabriel Fortin, le meurtrier présumé d'une DRH et d'une employée de Pôle emploi dans la Drôme et l'Ardèche. Selon les enquêteurs, la teneur de ces lettres a adressé à des proches, laisse penser que l'auteur présumé des assassinats voulait mettre fin à ses jours. Gabriel Fortin a été mis en examen pour assassinat après avoir abattu jeudi dernier une employée de l'agence Pôle emploi de Valence et une directrice de ressources humaines de l'entreprise Faune dans l'Ardèche où il avait été licencié il y a 11 ans. Un coup d'œil sur l'un des festivals les plus populaires au monde, Sundance. Ce grand rendez-vous américain du cinéma indépendant se déroule en ce moment, jusqu'à mercredi prochain. Ce festival, lancé par Robert Redford, se tient normalement dans les montagnes enneigées de l'Utah, mais coronavirus oblige, il a dû se réinventer cette année et il a lieu virtuellement. L'an dernier, 116 000 personnes avaient assisté à ce festival et les spectateurs Loïc Piala seront sans doute encore plus nombreux cette année.
Chaque mois de janvier depuis 1997, Didier Alouche sort l'anorak et file dans la station de ski de Park City pour couvrir le festival de Sundance. Cette fois, le journaliste de Canal+ se contente de voir les films dans son salon à Los Angeles.
Aujourd'hui, quand on mesure la qualité d'un festival, on mesure la qualité de son application Internet. C'est à peu près ça. Et celle de Sundance, c'est vraiment bien foutu.
Même en virtuel, les places pour les projections suivies d'une discussion avec l'équipe du film sont limitées. Les organisateurs de Sundance ont dû s'adapter. Le nombre de longs métrages présentés a presque été divisé par deux. Mais ils ont aussi créé un espace de rencontre virtuel, une sorte de bar survolant la Terre où les festivaliers peuvent échanger.
C'est vraiment l'idée de la rencontre qui avait mené Robert Redford à l'époque quand il a démarré le festival. C'est intéressant qu'ils aient essayé de continuer à garder cet esprit-là à travers ce website-là. Alors, évidemment, c'est des avatars, évidemment, c'est de la 3D générée par ordinateur. Mais bon, c'est quand même quelque chose et par les temps qui courent, c'est déjà quelque chose.
Les distributeurs et les plateformes de streaming ont aussi pris l'habitude de dénicher à Sundance la nouvelle pépite du cinéma indépendant, celle qui brillera aux Oscars ou créera la surprise au box-office. Mais cette année, ils ne pourront pas s'appuyer sur la réaction du public dans la salle pour guider leurs décisions. À Los Angeles, Loïc Pella pour France Inter.
Le festival Sundance en ce moment et jusqu'à mercredi. Sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jean-Pierre Blumeau.
Bonsoir Frédéric.
Et on va démarrer avec le jour d'après à Marseille où 300 supporters en colère hier se sont livrés à des actes graves au centre d'entraînement du club.
Des actes qui ont occasionné le report du match Marseille-Rennes dans la soirée. Des violences qui ont aussi occasionné 25 interpellations et surtout beaucoup d'émotions au vu des images particulièrement impressionnantes. Alors 14 personnes ce soir sont toujours en garde à vue. Dans la ligne de mire des fauteurs de troubles, il y a donc Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, qui tente une explication quant à la motivation des casseurs qu'il qualifie d'individus qui n'ont de supporters que de nom, Jacques-Henri Hérault, joint aujourd'hui par Vincent Rodriguez.
On est dans un contexte et dans un pays, j'ai envie de dire, au bord de la crise de nerfs. Et pour ceux pour qui le football est tout, c'est vrai qu'à Marseille, des milliers de supporters voient cette équipe comme une source de fierté, comme aussi une source d'espoir. Ça fait maintenant un an qu'ils n'ont pas de football et voir les matchs à la télévision dans des stades vides, c'est vrai que c'est une source de frustration. Je crois qu'il y a aussi des forces à l'œuvre à Marseille qui cherchent le chaos, qui l'ont cherché d'ailleurs depuis des années et même bien avant que nous arrivions aux commandes de ce club. Nous avons essayé de les combattre, nous continuerons à les combattre. Si on aime vraiment l'OM, même dans les moments difficiles, on doit soutenir le club, on doit soutenir ses joueurs. C'est pas le cas d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'individus. Ils portent aussi leurs responsabilités dans ce qui s'est passé hier.
Alors Jacques-Henri Hérault, président de l'Olympique de Marseille. Jean Saint-Marc, bonsoir. Vous êtes à Marseille où la tension est retombée, mais où la journée d'hier a laissé des traces et marqué les esprits.
Effectivement, bonsoir. Le centre d'entraînement de l'OM est surnommé la Commanderie, hein, vous le savez, mais la Citadelle a cédé ce week-end. Entre 50 et 100 supporters ont réussi à rentrer dans le centre d'entraînement. J'y suis allé tout à l'heure, des arbres ont été incendiés, le PC sécurité est saccagé, le matériel également a été volé, plusieurs voitures ont été endommagées. Surtout, l'OM annonce qu'il compte 2 blessés parmi ses salariés. Alvaro González, notamment le défenseur, a été touché par un projectile. L'OM a déposé plusieurs plaintes et compte riposter par le droit et par le dialogue, selon la formule du président Jacques-Henri Hérault. Vous l'avez dit, il est très contesté par les supporters, mais il a été conforté ce matin par son actionnaire, Frank McCourt. L'homme d'affaires américain a évoqué des actes de violence scandaleux. Surtout, il les compare à l'envahissement du Capitole par des partisans de Donald Trump. Les sanctions pourraient être sévères contre les supporters marseillais impliqués en justice, bien sûr, mais également la préfète de police a annoncé qu'elle allait prononcer des interdictions de stade les plus longues possibles.
Merci Jean-Saint-Marc en direct de Marseille pour France Inter.
Le sport côté terrain, cette fois, est une sensation à Lorient où les Merlus ont terrassé le Paris Saint-Germain 3-2.
Une équipe parisienne prise dans les filets de ces fameux Merlus. Alors les Parisiens menaient 2-1 avec un doublé de Neymar à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Mais ils ont cédé en toute fin de match face à l'avant-dernier du championnat. Inquiétant avant les prochaines rencontres contre Nîmes et Marseille et surtout à moins de 3 semaines du 8e de finale aller en Ligue des Champions face à Barcelone. Et qui en a profité? Eh bien c'est Lille qui a battu Dijon en fin d'après-midi 1-0. Lille qui prend pour l'instant la tête du championnat. Pour le reste, Saint-Etienne, Metz, Reims et Angers se sont imposés aujourd'hui. Ce soir, 21h, dernière affiche, Nantes recevra Monaco.
Le championnat du monde de handball, Jean-Pierre, s'est achevé ce soir en Égypte. Et en début d'après-midi, la France n'a pas réussi à obtenir la médaille de bronze et la troisième place.
Oui, il y avait un match à jouer face à l'Espagne dans la petite finale. Eh bien, défaite 35-29 des Français face aux champions d'Europe en titre. Alors, la France a tout de même gagné 7 matchs sur 7 au début de la compétition. S'est éteinte un petit peu en demi-finale et dans cette petite finale. C'est le regret du capitaine tricolore, Michael Guigou.
Forcément, quand on avait enchaîné 7 victoires, qu'on finit sur 2 défaites, est-ce que ça représente vraiment le niveau qu'on a eu tout au long de la compète? Je ne sais pas. Comme je disais, après la demi-finale, il nous a manqué un peu de force, un peu d'énergie pour finir cette compète. C'est dommage parce qu'on a montré vraiment de belles choses pendant cette compétition et c'est dur de sortir comme ça d'une compétition où on a été vaillant. On a essayé de trouver des solutions par moment quand on avait des blessures, quand on était en difficulté dans les matchs. Et bon, après, peut-être quand le niveau a augmenté un peu, peut-être que à la fois, ce manque d'énergie et ce manque de solutions, un peu trop pour nous sur la fin.
Le capitaine des handballeurs tricolores, Michael Guigou, aujourd'hui sur beIN Sport. Alors, les Français vont maintenant tenter de se qualifier pour les JO de Tokyo. Le tournoi de qualification aura lieu en mars prochain en France. Quant au champion du monde, c'est le Danemark qui a battu la Suède 26-24 il y a quelques minutes.
La Coupe du monde de ski alpin a fait étape ce week-end à Chamonix.
On retiendra surtout la victoire de Clément Noël hier dans le premier slalom et aujourd'hui pour le second slalom du week-end. Le Vosgien n'a pas réussi à rééditer l'exploit pour son aîné Alexis Pinturo. Pas de podium, mais une 8e place. On reverra Alexis Pinturo, notamment à Cortina d'Ampezzo en Italie dans 15 jours pour les championnats du monde.
En cette fin de janvier, Jean-Pierre, cela fait un an que la patineuse Sarah Abitbol a pris la parole pour dénoncer les abus sexuels dont elle a été victime, abus subis de la part de son entraîneur.
On s'en souvient, un témoignage qui a déclenché un véritable MeToo dans le sport. Des centaines de témoignages, près de 80 disciplines concernées. Cette semaine, s'est engagée dans la lutte contre la violence dans le sport, l'Institut National du Sport, l'INSEP, qui a signé une convention avec Fight for Dignity, une association créée il y a maintenant 4 ans qui vient en aide, grâce au sport, aux personnes victimes de violences, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Un rapprochement finalement évident, Fabrice Abgral.
Car c'est là, à l'INSEP, que se trouvent les forces vives du sport français. Là où se trouvent aussi des victimes potentielles, hommes et femmes confondues. C'est pour les protéger et pour briser la loi du silence que l'association Fight for Dignity a créé un carnet qui sera distribué à tous les athlètes et entraîneurs de l'INSEP. Sabine Salmon est la directrice de Fight for Dignity.
Un guide pratique qui permet de poser des mots sur ce que l'on ressent, que l'on soit victime ou témoin de violence.
Dans ce guide, qui prend la forme d'un carnet de notes, chacun et chacune pourra l'utiliser et retrouvera des conseils, mais aussi des contacts des associations et les numéros d'urgence.
Car il faut savoir dénoncer les violences et les agresseurs. C'est ce qui se fait de plus en plus en France désormais. C'est le constat de Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport.
Près de 400 cas qui sont aujourd'hui traités par des enquêtes administratives, par mon ministère au niveau national, par mes services au niveau déconcentré, avec, lorsque cela s'avère nécessaire et indispensable, un signalement à la justice systématiquement. Sans traitement par la justice de ces cas-là, cette libération de la parole ne sert qu'à moitié.
Depuis l'ouverture l'année dernière de sa plateforme d'écoute, le ministère des Sports a traité en 10 mois 5 fois plus de cas qu'en 10 ans.
Fabrice Abgral, et puis le Prix d'Amérique, véritable championnat du monde de trot attelé, avait lieu aujourd'hui à Vincennes. Alors vous savez que France Inter a vu juste ce matin, notamment dans la chronique de Laetitia Bernard, nous vous avons parlé de Björn Goop, ce driver suédois aussi connu dans son pays qu'Ibrahimovic. Et bien c'est lui qui l'a emporté aujourd'hui avec Fast Time Bourbon, qui lui est un trotteur bien français.
Bah dites-moi, bravo. On va s'intéresser maintenant, Jean-Pierre, à un univers bien particulier, un sport spectaculaire qui frappe à la porte des Jeux Olympique, l'univers de la cascade de glace, une discipline, il faut bien l'avouer, un peu connue du grand public et qui tente d'intégrer le programme olympique et bénéficier d'une plus grande notoriété. La cascade de glace était en démonstration il y a 7 ans à Sochi et ce sport voudrait un destin encore plus grand. Jérôme Val a assisté au championnat d'Europe de la discipline à Champigny en Vanoise, en Savoie. Cascade de glace, c'est le long format de ce soir.
Leurs seules armes, deux piolets aiguisés et des chaussures à pointe. Face à eux, une paroi de bois et de glace haute de 24 mètres. Les grimpeurs doivent arriver dans un temps imparti. En haut de la tour, une tour de glace à Champagny-en-Vanoise, site unique en Europe. Bienvenue dans l'univers de la cascade de glace, une discipline plutôt récente mais qui se rêve un destin olympique. Luna Ladvant est un Français de 20 ans, vainqueur du circuit de la Coupe du Monde l'an passé. Il est devenu champion d'Europe le week-end dernier en Savoie.
Le sport évolue beaucoup d'année en année. On se tourne vers des voies où il y a un temps de plus en plus petit, donc on va de plus en plus vite, ce qui est bien plus attrayant à regarder. On va vers des mouvements hyper aériens, des jetés, des moments où on est en l'air sans aucun contact dans le mur. Pour moi, en tout cas, c'est un sport qui est hyper beau à regarder. En tout cas, les retours qu'on en a, c'est très souvent que c'est impressionnant, quoi.
Discipline spectaculaire avec des gestes étonnants et des prises de risque. Voilà l'argument de poids qui pourrait faire de la cascade de glace un sport olympique, espère Nils Guillotin. C'est le directeur de compétition des championnats d'Europe.
On a vraiment la discipline qui est en train de devenir de plus en plus impressionnante, intéressante à regarder. Donc c'est sûr, je suis convaincu que ça va être aux Jeux Olympiques très rapidement.
Et preuve qu'elle séduit, il y a de plus en plus d'adeptes.
C'est vraiment quelque chose qui explose. Les créneaux d'accès libre à la tour sont vraiment remplis à leur maximum de capacité. On est vraiment content de voir autant d'engouement pour la cascade de glace. On a des structures, on a des athlètes, on a structuré la discipline pour que ça marche.
Comme d'autres sports tels que le ski alpinisme, la cascade de glace tape à la porte des JO. En démonstration aux Jeux de Sochi en 2014, cette discipline voit plus grand et ce n'est pas très compliqué à sur deux. Denis Tatou, l'organisateur des championnats d'Europe.
Au regard des équipements qui sont nécessaires habituellement pour les disciplines olympiques, les patinoires, les pistes de bob, etc., le coût d'une structure comme ça est minime. C'est une activité qui n'est pas difficile à mettre en place.
Le chemin sera sans doute long, surtout face à la grosse machine des Jeux. Cortina d'Ampezzo en 2026, pas certain, en 2030 plus sûrement. En attendant, il faut continuer à développer la cascade de glace, selon Luc Thibal, directeur technique national à la Fédération française des clubs alpins de montagne.
Les JO, c'est une chose. Après, le circuit Coupe du Monde, c'est un très beau circuit. Donc, il se déroule dans des lieux emblématiques, donc dans les Alpes, mais aussi donc en Corée, aux États-Unis. Et c'est quand même ça, l'important, c'est d'asseoir, je dirais, véritablement un beau circuit Coupe du Monde.
Comme l'ont fait le breakdance ou le skate pour les Jeux d'été, la cascade de glace ambitionne de renouveler et rajeunir le mouvement olympique.
L'univers de la cascade de glace avec Jérôme Val.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec demain, lundi, plusieurs rendez-vous à noter. Le coup d'envoi du Beauvau de la sécurité, une grande concertation nationale voulue par Emmanuel Macron en pleine polémique sur les violences policières. Le Beauvau de la sécurité s'étalera sur plusieurs mois pour aboutir à une loi sur la sécurité intérieure avant la présidentielle. Projet de loi séparatisme ou loi confortant le respect des principes de la République. Elle arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pendant 15 jours. jours, les députés examineront toute une série de mesures pour contrer le séparatisme, éducation, haine en ligne ou encadrement des associations, notamment sur l'agenda mardi, un sujet dont on parle peu souvent, mais qui sera dans l'actualité mardi avec la journée mondiale des zones humides. Longtemps mal considérées, ces terres imprégnées d'eau ou marécageuses ont pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre naturel, Sandy Dauphin.
On estime que plus des deux tiers des zones humides en France ont disparu depuis le début du XXe siècle. On les détruit pour construire, cultiver. Elles sont aussi victimes de prélèvements d'eau excessifs et de pollution. Pourtant, les mares, prairies humides, marais et autres lagunes sont non seulement de formidables réservoirs de biodiversité, mais ils nous rendent bien des services. Ce sont comme des éponges qui atténuent les risques d'inondation. Les zones humides jouent aussi un rôle de filtre dans le cycle de l'eau et stockent de grandes quantités de carbone. Dans les régions tropicales, sur le littoral, les mangroves servent de bouclier contre les tempêtes. Depuis 1971, elles sont en théorie protégées par un traité signé par 170 pays, la Convention internationale de Ramsar. Elles décernent des labels aux zones humides d'importance mondiale. 50 sites sont labellisés en France. Cette année, cette reconnaissance est attribuée aux tourbières et aux lacs de la montagne jurassienne.
Côté sport et droit télé, la semaine sera décisive pour le football français. Après le fiasco Mediapro, la Ligue 1 se cherche un diffuseur prêt à mettre de l'argent sur la table. Beaucoup d'argent pour aider les clubs fragilisés aussi par la pandémie. Les résultats de l'appel d'offres devraient être connus en tout début de semaine. Et puis jeudi, on s'intéressera au monde de la culture en colère. Cinéma, spectacle vivant, audiovisuel. Des manifestations sont prévues dans toute la France contre une gestion qualifiée d'injuste et sans visibilité du gouvernement, alors que les salles de cinéma notamment s'enfermer depuis le 30 octobre. À l'étranger, l'un des temps forts de l'actualité aura lieu mardi aux États-Unis, avec un hommage rendu aux policiers tués lors de l'assaut contre le Capitole. Le corps de l'officier de police sera exposé au Capitole dans la rotonde. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Frédéric.
Correspondant à Washington, et ce genre d'hommage est extrêmement rare aux États-Unis.
Oui, même si de nombreux élus ont déjà eu droit à cet honneur de voir leur cercueil ainsi exposé dans la rotonde du Capitole. Le dernier, c'était le représentant démocrate John Lewis, figure des droits civiques disparu l'été dernier. Mais pour ce qui est des personnalités privées qui n'ont pas servi le gouvernement, seuls 4 personnes ont reçu cet honneur dans l'histoire américaine. 2 officiers de police tués au Capitole lors d'un incident en 1998, la figure des droits civiques Rosa Parks en 2005 et puis le révérend Billy Graham 3 ans plus tard. À compter de mardi matin, donc, le cercueil de l'officier Brian Sicknick sera exposé sous la coupole du Congrès. Puis mercredi, les sénateurs et représentants rendront hommage à ce policier de 42 ans qui travaillait pour la police du Capitole depuis une douzaine d'années et qui, le 6 janvier, a succombé à ses blessures après avoir été frappé à coups d'extincteur par un ou plusieurs manifestants. Depuis les événements du 6 janvier au Capitole, les autorités fédérales ont interpellé 172 personnes et ouvert plus de 400 enquêtes criminelles.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. On terminera la semaine avec un week-end à Rome pour l'équipe de France de rugby face à l'Italie et c'est le début du tournoi des 6 nations. Et puis dimanche, OM-PSG épisode 3, Marseille accueille Paris en championnat de Ligue 1 après une semaine bouillante avec les supporters sur la Canebière, on en a parlé pendant le journal. Au générique de cette édition, Fabrice Desmaz et Julien Dumont en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Anna Péan et Swad Bellani. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Jean-Michel Golinski.
Sur la carte de vigilance, une vingtaine de départements est en orange cru, avec à nouveau demain, exception faite des régions méditerranéennes, un temps maussade avec des pluies éparses et plutôt faibles des Hauts-de-France au Grand Est, sur la Normandie et de l'Île-de-France au centre Val-de-Loire. En revanche, sur la Bretagne et plus au sud, les quantités de pluie seront nettement plus conséquentes, en particulier sur la Corrèze, le Cantal, l'Aveyron et le Puy-de-Dôme, en vigilance orange. De plus, il va beaucoup neiger sur tous les massifs de la moitié sud et sur le Jura, avec un risque de départ d'avalanche, notamment sur l'Isère, également en vigilance orange. Le tout poussé par un vent de secteur ouest à 90 km à l'heure près de l'océan et sur les Caps Corses, et parfois jusqu'à 120 pour la Tramontane. Les températures en hausse dans la partie nord et est vont stationner ailleurs au même niveau que ce week-end.
Jean-Michel Golinski de Météo France.